France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le régime Maduro résiste à la capture de son président. La répression s'intensifie à Caracas autour du ministre de l'Intérieur et des colectivos, des milices qui sèment la terreur au Venezuela. Reportage sur place dans un instant. Les États-Unis prêts à soutenir militairement la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Une force européenne déployée dans le pays en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Un accord doit être annoncé ce soir à Paris. L'aveu des responsables de la commune de Crans-Montana après l'incendie mortel du Nouvel An. Le bar qui a brûlé le Constellation n'avait pas été contrôlé depuis 5 ans. Le dossier de ce journal nous emmènera dans la maison de Louis Braille, le père de l'écriture pour les personnes aveugles et malvoyantes. Éric Chavroux nous fera visiter cette maison transformée en musée à Couvray en Seine-et-Marne. 3 jours après la capture de Nicolas Maduro par les Américains, le régime du président vénézuélien déchu tient toujours. La vice-présidente Delcy Rodriguez assure l'intérim après avoir prêté serment hier. Et le constat est amer pour l'opposition vénézuélienne. Sa chef de file, la prix Nobel Maria Corina Machado, n'a pas les faveurs de Donald Trump. Elle s'est contentée aujourd'hui d'annoncer son prochain retour au Venezuela sans plus de précision. Pendant ce temps-là, à Caracas, la vie reprend son cours et la répression reprend. Les durs du régime sont à la manœuvre avec les groupes paramilitaires. Le reportage à Caracas d'Alice Campagnol.
Les autorités resserrent la vis à Caracas. Le très craint ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a repris ses rondes dans la capitale comme il a l'habitude de le faire. On pouvait le voir sur les réseaux sociaux dans différents quartiers, entouré d'hommes armés criant « douter, c'est trahir ». Et au-delà des forces de l'ordre officielles, ce sont les colectivos qui terrorisent la population, des groupes paramilitaires armés par le gouvernement qui circulent dans la ville et contrôlent les habitants. Franco a eu affaire à eux.
Je suis passé dans la zone de Boleta et c'est là-bas qu'ils me sont tombés dessus. Ils m'ont demandé de soulever mon t-shirt pour voir si je n'avais pas d'armes. Je leur ai expliqué que j'allais simplement au supermarché. Heureusement qu'ils n'ont pas inspecté mon téléphone portable, même si je n'ai rien de compromettant dessus, car je supprime tout. Mais ils peuvent trouver n'importe quelle excuse pour dire que l'on conspire contre le gouvernement et nous mettre derrière les barreaux.
Les seuls qui descendent dans la rue pour exprimer leurs opinions politiques, ce sont les partisans du gouvernement. Du côté de l'opposition, si beaucoup se réjouissent de l'enlèvement de Nicolas Maduro, il vaut mieux célébrer discrètement dans l'intimité des foyers. Deux Vénézuéliens ont déjà été arrêtés pour avoir fêté le départ du président.
Alice Campagnol, correspondante de France Culture au Venezuela. Cette démonstration de force américaine pèse sur les efforts diplomatiques en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La preuve cet après-midi à Paris avec le sommet de la coalition des volontaires. Une trentaine de pays en majorité européens sont réunis à l'Élysée avec les émissaires américains au programme les garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir Stanislas.
Vous êtes à l'Élysée où la réunion est toujours en cours et avant même l'issue du sommet et la conférence de presse ce soir des principaux dirigeants parmi lesquels Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, on connaît, Virginie, les principaux contours du projet de déclaration qui doit être signé par cette coalition des volontaires.
Oui, selon le projet de déclaration obtenu par l'AFP, les Européens qui sont sur le point de terminer la réunion doivent se dire ce soir prêts à fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité, je cite, juridiquement contraignantes. Parmi ces garanties, une force internationale qui serait soutenue par des moyens militaires américains, c'est ce qu'espéraient obtenir les Européens de leur allié outre-Atlantique et aussi ce qui a peut-être expliqué leur relative prudence jusqu'à présent dans les réactions à l'opération américaine au Venezuela. Des partenaires européens, américains, ukrainiens réunis ce soir donc pour afficher un front uni. Opération communication, alors que les Européens se sont tout de même livrés aujourd'hui à un exercice d'équilibrisme diplomatique peu banal, en publiant un communiqué apportant tout leur soutien au Danemark et au Groenland face aux revendications de Donald Trump. L'objectif est donc bien de démontrer ce soir que l'Ukraine reste au cœur des priorités. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le cessez-le-feu pourrait être supervisé donc par les Américains avec participation des membres de la coalition. La force multinationale pour l'Ukraine, quant à elle, serait formée par les pays volontaires de la coalition, pas un déploiement humain le long de la ligne de contact de 1400 km. Il s'agirait plutôt de moyens techniques comme des drones, des satellites et en cas de nouvelle attaque de la part de la Russie. Et ce serait là une belle victoire diplomatique de la part des Européens. Si ça se confirme, les États-Unis s'engageraient à apporter leur soutien à cette force conjointe.
Virginie Pironon, en direct de l'Elysée avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps qui en dit long sur l'influence américaine dans le monde. La bonne nouvelle tout d'abord, à l'initiative de l'OCDE, près de 140 pays ont trouvé un accord pour une taxation minimale des bénéfices des entreprises, une harmonisation mondiale des impôts sur les sociétés pour empêcher certaines multinationales de faire jouer la concurrence entre paradis fiscaux. Bonsoir Camille Magnat.
Bonsoir Stanislas.
Cet accord prévoit plusieurs dispositifs permettant d'obliger les multinationales à payer 15% d'impôts au moins où qu'elles soient domiciliées dans le monde. Mais la mauvaise nouvelle, Camille, c'est que les États-Unis de Donald Trump ont obtenu que leurs multinationales en soient pour l'essentiel exemptées.
Oui, une victoire historique comme l'a salué hier le ministère des Finances à Washington. Ces multinationales échappent en particulier au principe dit d'extraterritorialité qui aurait permis aux Européens en particulier de récupérer la différence entre ce que payent réellement les filiales d'entreprises américaines domiciliées dans des paradis fiscaux et ce taux minimum fixé à 15% sur les bénéfices réalisés dans leur pays. Mathieu Parenti est professeur à l'École d'économie de Paris, directeur de programme à l'Observatoire européen de la fiscalité.
C'est une avancée qui est considérable parce qu'il faut savoir que des filiales d'entreprises américaines notamment, par exemple localisé en Irlande, était taxé non pas au taux statutaire de 12,5% en Irlande, mais plutôt à des taux qui étaient entre 4 et 7%, parfois bien inférieurs.
Alors pour arriver à cette exemption, les Américains ont une nouvelle fois usé de méthodes de négociation plutôt agressives, poursuit Mathieu Parenti.
Ils ont fait de manière assez explicite plusieurs menaces de possibles représailles. Si vous taxez nos multinationales, alors nous, ce qu'on fera, c'est que on doublera la taxation sur, par exemple, les sociétés européennes qui opèrent aux États-Unis, ou on augmentera l'impôt sur le revenu des résidents européens, etc.
Et donc, à la fin, le reste du monde cède à l'administration Trump, laissant un impôt mondial beaucoup moins ambitieux que prévu.
On ne va pas se mentir, un des objectifs de l'imposition minimale était de venir taxer les multinationales qui sont les plus agressives en termes d'évitement fiscal, les multinationales américaines. Donc le fait que les multinationales américaines soient exemptées, c'est une très mauvaise nouvelle.
Et il ne reste plus qu'à espérer, conclut notre économiste, que la prochaine administration américaine réintègre un jour cet impôt minimum mondial qui doit générer ses premières recettes fiscales dès cette année 2026.
Décryptage signé Camille Magnard, Service Économie de France Culture. Israël n'en démord pas. L'État hébreu accuse Médecins Sans Frontières d'avoir des liens avec le terrorisme à Gaza. MSF, qui fait partie des 37 ONG internationales, sommées de quitter l'enclave par les autorités israéliennes. Mais les French Doctors ont eu droit à un traitement de faveur, entre guillemets, puisque le ministère israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme leur a réservé un rapport spécifique, un rapport à charge, comme nous l'explique Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Le constat est sans équivoque. Le ministère de la Diaspora affirme dans un communiqué accompagnant le rapport que MSF a travaillé à plusieurs reprises en coordination avec des individus liés à des groupes terroristes et que l'ONG les a protégés sous couvert d'activités humanitaires. Les autorités israéliennes s'appuient sur trois exemples. Un employé de l'antenne belge qui aurait exprimé son soutien au Front de libération de la Palestine et deux membres du staff de l'ONG à Gaza assassinés par l'armée de l'État hébreu, qui les soupçonnait d'appartenir au Hamas et au djihad islamique. Pour la présidente de MSF, Isabelle Defourny, ces accusations sont invérifiables.
Israël ne nous a jamais fourni de preuves. Ce document, c'est un document qui vise à faire avaler la décision d'Israël de ne pas nous laisser poursuivre nos activités humanitaires. Ceci en nous décrédibilisant, quoi, en disant qu'on est une organisation infiltrée par le Hamas. MSF n'emploierait jamais sciemment des personnes impliquées dans des activités militaires et on a des mécanismes de contrôle.
MSF et les 36 autres ONG bannies de Gaza ont 2 mois pour quitter l'enclave. Plusieurs d'entre elles ont demandé des autorisations pour continuer pendant cette période à envoyer du personnel sur place. Elles ont toutes été refusées.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Culture à Jérusalem. C'est un aveu terrible. 6 jours après l'incendie de Cran Montana en Suisse, le président de la commune Valaisanne a admis ce matin un manquement dans les les contrôles de sécurité du bar Le Constellation, là où 40 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du Nouvel An. 9 Français figurent parmi les victimes de l'incendie, qui a fait aussi 116 blessés. Au cours des 5 dernières années, Aurélien Tirard, l'établissement n'a pas été contrôlé.
En 2016, 2018 et 2019, des contrôles ont bien eu lieu dans le bar Le Constellation, comme la loi suisse l'impose, au service de sécurité de la commune. Mais depuis, plus rien, admet Nicolas Ferraud, le président du conseil communal de Crans-Montana. Face aux nombreux journalistes et caméras, il reconnaît ne pas savoir pourquoi.
Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera.
Selon les premiers éléments, ce sont des bougies étincelles qui ont causé l'incendie dans le sous-sol du bar, dont le plafond est recouvert de mousse acoustique. L'enquête devra déterminer si cette mousse était conforme ou pas. Reste que le danger était connu, comme le montre une vidéo révélée par la radio suisse RTS. Lors du réveillon du Nouvel An 2019, on peut voir un serveur mettre en garde des clients qui soulèvent ces bougies tout proche du plafond. De son côté, le propriétaire du bar reste libre. Il est sous le coup d'une enquête pour homicide par négligence. Selon nos informations, cet homme, un Corse de 49 ans, a été condamné à 2 reprises, dont une fois il y a 18 ans pour des faits de proxénétisme.
Le dossier de ce journal est consacré ce soir à Louis Braille, l'inventeur du célèbre système d'écriture à points saillants pour les personnes aveugles et malvoyantes. Louis Braille, mort il y a tout juste 174 ans, le 6 janvier 1852, emporté par la tuberculose à 43 ans. Il est inhumé à Couvray, en Seine-et-Marne, Couvray, où se trouve aussi sa maison natale classée, transformée en musée en 1952. C'est un reportage d'Éric Chavroux.
Quelques tours des grosses clés d'origine ouvrent les portes de cette maison briarde de la fin du XVIIIe siècle. La demeure où est né Louis Braille, à 35 km à l'est de Paris, que fait visiter de longue date Stéphane Marie.
On va dire que je vais pouvoir commencer.
Comme ce matin-là, à des CE2.
Laissez un peu de place quand même, monsieur.
Voilà.
À commencer par la salle commune, avec le lit des parents, la table des repas ou un four à pain, décoré de quantité d'objets pour se replonger dans le passé.
Comme je vous ai dit, c'est la seule pièce chauffée à l'époque de louer pour les parents, les 4 enfants. Une pièce pour 6. Ça fait un peu petit parce que c'est pas une grande pièce quand même, ça fait aller même pas 25 mètres carrés. Mais à l'époque, c'est une belle maison, on a tout l'essentiel dans la pièce, plein de greniers. La cave en dessous pour le vin, par exemple. Le puits contre la maison, on a l'eau à domicile. Donc ils n'étaient pas à plaindre.
Le décor est campé, mais le destin se joue à côté, toujours au rez-de-chaussée, dans l'atelier du père Bourrelier.
Alors les enfants, c'est pas avec une haleine qui s'est blessée, c'est avec une serpette.
Comme le raconte Marie-Jeanne Marceau, autre médiatrice culturelle.
Un jour, en 1812, Louis, il a 3 ans, il est ici devant l'établi avec son papa, et tout d'un coup, pendant très peu de temps, Simon, le papa, est sorti de cet atelier. Il a laissé Louis tout seul. Et Louis, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Je vais faire comme papa. Il a pris une pièce de cuir, il a pris la serpette, et au lieu de travailler vers le mur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé vers lui, comme ça, et la serpette s'est plantée dans son œil.
Son œil s'infecte, et à 5 ans, il devient totalement aveugle. La visite se poursuit à l'étage, dans l'ancienne chambre de Louis Braille, avec au mur et dans des vitrines d'anciens documents, habits et outils, où l'on découvre comment il a développé le système d'un ancien militaire, Nicolas-Charles-Marie Barbier de la Serre.
C'était facile à lire avec le doigt, facile à lire avec des réglettes qui tiennent dans la poche. Et Braille, il améliore l'idée de Barbier, Barbier 12 points. Ça ne tient pas sous le bout du doigt, ça ralentit la lecture parce qu'on déplace le doigt verticalement. Et Louis, il va en conserver, vous savez combien il conserve de points ? 6, c'est ça. 2 colonnes de 3, ça tient bien sous le bout du doigt. Et il a fait l'alphabet complet, alors ça a l'air tout bête à dire comme ça, mais Barbier, lui, il avait une nette préférence pour le phonétique. Et la ponctuation, les signes mathématiques, bah, ils n'étaient pas prévus non plus.
À côté de la maison-musée et de son jardin, qui reçoivent chaque année environ 7000 visiteurs, dont une très grande majorité de voyants et beaucoup de scolaires, des ateliers sont organisés pour bien appréhender le braille.
Alors, je te montre le P et le A et tu feras pareil après.
Et après un ravalement et un toit remis aux normes, un projet d'agrandissement est prévu dans une ferme voisine, explique Maëlys Ruffin, la directrice du groupement d'intérêt public qui comprend le musée.
C'est vraiment de développer des espaces d'exposition permanentes supplémentaires, mais aussi temporaires. Et on a cette envie de développer davantage la manipulation du braille, mais aussi du dessin en relief. Proposer une programmation qui est plus large, d'avoir des conférences, de pouvoir accueillir des artistes aussi, qui puissent travailler sur cette question du braille, sur la question du visible, de l'invisible et du coup des perceptions des sens.
En attendant, le lieu labellisé Maison des Illustres a renforcé son partenariat avec le géant, également implanté sur la commune, Disneyland Paris. Ses équipes y sont venues se former à la déficience visuelle et la maison-musée initie le recyclage des lunettes perdues dans le parc, pas moins d'une tonne 7 l'an dernier.
Le musée Louis Braille a couvert en Seine-et-Marne un reportage signé Éric Chavroux. Il était l'un des maîtres du cinéma hongrois, réputé pour ses plans séquences et ses films en noir et blanc. Bélatar est mort aujourd'hui à l'âge de 70 ans. On lui doit notamment le tango de Satan, une fresque de 7 heures tournée en 1994 sur l'effondrement du communisme en Europe de l'Est. Bélatar n'avait que 22 ans lorsqu'il a tourné son premier film, Le Nid Familial, sur la classe ouvrière hongroise. Il l'avait raconté sur France Culture au micro d'Arnaud Laporte le 19 juillet 2022.
Quand moi j'avais 22 ans en particulier, c'était sous un régime particulièrement menteur. On disait communisme, mais ce n'était pas du communisme. C'était une humiliation du peuple, sans la moindre liberté. Et nous voulions changer ce monde-là. La colère et mon caractère impatient m'ont conduit à agir. Pour moi, la caméra n'était qu'un outil pour agir. Bon, d'accord, on était très à gauche. On voulait protéger les véritables prolétaires et leur montrer à l'écran la vie telle qu'elle est, en réalité. Et naturellement, ça n'a pas plu. Aux communistes, disons.
C'est de communistes.
Le cinéaste hongrois Bélatar dans Affaires culturelles d'Arnaud Laporte, entretien retrouvé en une de notre site franceculture.fr. Le poste était vacant depuis la démission surprise du chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel. Mais cette fois, ça y est, l'Opéra National de Paris a trouvé son nouveau directeur musical. Le chef d'orchestre américain d'origine russe Semyon Bichkov. À 73 ans, il va diriger la programmation de l'opéra pour les 4 prochaines saisons. Il prendra ses fonctions le 1er août. Semyon Bichkov connaît bien la France puisqu'il vit dans notre pays depuis presque 40 ans. Dans les années 90, il fut même le directeur musical de l'Orchestre de Paris. Louis-Valentin Lopez nous brosse son portrait.
Il se décrit avec humour comme une salade mixte. Semyon Bichkov est né en Russie, a émigré aux États-Unis avant de s'installer en Europe, ému aujourd'hui de prendre ses quartiers à l'Opéra de Paris.
J'admire énormément la tradition de l'Opéra de Paris qui est très noble, qui date déjà 350 ans. Et j'admire le talent de la maison et j'admire l'esprit de la maison.
Le maestro connaît déjà la maison et son orchestre. Il a dirigé plusieurs productions à l'opéra, dont Tristan et Isolde.
C'est un orchestre qui a une personnalité artistiquement singulière. Le ADN émane de la France.
En nommant Bichkov, 73 ans, l'Opéra de Paris mise sur l'expérience. Il s'agit aussi de panser les plaies laissées par le précédent directeur musical, selon le critique musical et producteur Christian Merlin.
La maison Opéra de Paris a été traumatisée par le départ vraiment fracassant de Gustavo Dudamel, sa démission en plein premier mandat. Il était important de rassurer et d'apaiser.
Bichkov sera aussi là pour solidifier le projet musical, nous dit la direction, pendant une période compliquée.
Notamment la fermeture de Garnier et de Bastille pour des travaux, donc la présence de quelqu'un qui a l'expérience de Semyon Bichkov peut aussi contribuer à bien franchir ce cap-là.
Le chef qui ne tardera pas à gagner la fosse de l'opéra, il dirigera à partir du 26 janvier Eugène Onéguine de Tchaïkovski.
Voilà Louis-Valentin Lopez pour ce portrait de Semyon Bichkov, le nouveau directeur musical de l'Opéra National de Paris. Un mot du temps ce soir et demain. Météo France annonce une nouvelle offensive neigeuse par l'ouest. 38 départements en vigilance orange, neige et verglas, du nord de la Nouvelle-Aquitaine à la frontière belge. En passant par l'Île-de-France, la couche de neige pourrait atteindre le 3 à 7 cm, voire une quinzaine dans les Ardennes. Le ministère des Transports recommande d'éviter tout déplacement routier demain en région parisienne. Demain matin, il fera entre moins 4 et moins 8 degrés en pleine. L'après-midi, le thermomètre remonte à l'ouest entre 8 et 12 degrés, mais il continuera à faire froid à l'est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Anthony Thomasson.